Considérant que l'ignorance, l'oubli,
tous les hommes sont des égaux.
Ou le mépris des droits de l'homme.
La nouvelle déclaration universelle des droits de l'homme. Dans la dignité et la valeur de la personne humaine. Dans l'égalité des droits des hommes et des femmes. De la justice et de la paix dans le monde.
On résolut d'exposer dans une déclaration solennelle les droits.
Les émeutes ont éclaté suite au
d'aliénage.
Inconnus des services de police.
C'est quand même curieux, c'est un texte qui a plus de 200 ans. Il n'y a pas grand-chose à y changer.
Chronique mensuelle de la section nantaise de la Ligue des droits de l'homme.
Bonjour Annie Richard.
Bonjour Pascal Massieu, bonjour les auditeurs.
Bonjour Christine Bernazo.
Bonjour à tous.
Vous faites partie toutes les deux de la section de Nantes et du Pays Nantais de la Ligue des droits de l'homme qui tient chronique pour la troisième saison sur ChatFM. Et je le dis à chaque fois, on en est vraiment content ici. Cette chronique est réalisée par Élie, que je salue. Aujourd'hui, dans cette chronique, il va être question des mineurs isolés étrangers, qu'on appelle aussi les mineurs non accompagnés. On va voir quelle est la situation en Loire-Atlantique, notamment, comment ils sont pris ou non en charge, et puis ce qu'il faudrait faire justement pour essayer d'améliorer une situation qui humainement n'est pas tenable pour des dizaines d'entre eux. Et puis on fera référence dans notre conversation, Annie et Christine, à ce qui va se passer le jeudi 23 novembre à 20h au Théâtre Bretagne, rue Villebois-Mareuil à Nantes, dans le cadre du Festival des Solidarités qui se déroule du 3 novembre au 3 décembre 2017. Il y aura une rencontre qui est sur le sujet que vous allez aborder dans cette chronique, jeunes mineurs isolés étrangers, quelle solidarité, en présence de Françoise Dumont, la présidente d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Voilà pour le programme de cette chronique, pour le menu de ces chroniques. Alors Annie et Christine, ces mineurs isolés étrangers, ces mineurs non accompagnés, quand on parle d'eux, de quoi parle-t-on précisément et d'où viennent-ils ?
Bien, on parle de jeunes qui arrivent donc... Ici à Nantes, on a principalement des jeunes d'Afrique de l'Ouest. On a aussi quelques jeunes d'Afghanistan, quelques jeunes du Pakistan, mais surtout de l'Afrique de l'Ouest. Et ce sont des jeunes qui arrivent sans leur autorité parentale. Et c'est pourquoi on les appelle des jeunes non accompagnés. Donc ce sont des jeunes qui, du coup, étant éloignés de leur autorité parentale, sont en danger et doivent être protégés.
Les mineurs non accompagnés, c'est donc la terminologie qui fait référence au droit européen, adopté depuis longtemps par le Conseil de l'Europe. Une directive datant de décembre 2011, elle-même faisant référence à une directive de 2003, et que le gouvernement français a adopté en mars 2016, où le garde des Sceaux décide de se référer désormais à cette dénomination « mineur non accompagné ».
2016, c'était Urvoas, le ministre de la Justice.
Voilà. Mettant donc l'accent plus sur le fait qu'il soit non protégé, puisque non accompagné. Non accompagné, isolement, donc besoin de protection. Et c'est comme ça qu'on arrive à la loi de 2016 qui consacre le principe du bénéfice de la protection de l'enfance pour ces jeunes arrivant sur le territoire français. Le système au niveau du principe de protection, mais avec un certain nombre de dispositifs particuliers concernant le fait qu'ils soient étrangers, puisque la base de l'admission pour bénéficier de la protection réside sur l'évaluation de leur minorité.
Alors, qui se fait selon 6 critères, je crois. Hein.
Oui, une évaluation qui porte autour d'un entretien, 1 ou 2 entretiens, prévoit la loi, pluridisciplinaire, prévoit le décret, qui porte donc sur l'état civil, la composition familiale, les conditions de vie dans le pays d'origine, les motifs du départ et le parcours migratoire, les conditions de vie depuis l'arrivée en France et le projet de la personne. À l'issue de ça, un avis des évaluateurs, enfin de l'équipe d'évaluation, est communiqué au président du conseil, enfin du conseil départemental pour une admission ou pas. Puis le président du conseil départemental transmet cet avis au juge des enfants pour que le jeune soit confié au conseil départemental. C'est le principe de la loi.
Les tests osseux, c'est en dehors de ce cadre de la loi. Ça avait fait beaucoup réagir d'ailleurs.
Si, les tests osseux sont toujours dans la loi.
Plus près du micro.
Si, les tests osseux sont toujours dans la loi, mais bon, aujourd'hui, on ne sait pas trop sur l'ensemble de la France comment ils sont appliqués. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'en Loire-Atlantique, ils ne sont pas appliqués. Ce sont des tests qui ont fait soulever le corps médical par rapport à ça.
Et puis les militants.
Ouais. Donc ça,
les humanistes.
C'est plus. On n'en parle plus trop.
Oui, parce que c'était très aléatoire. Il y avait 18 mois d'incertitude, évidemment.
Il y a 18 mois d'incertitude sur l'âge. Et évidemment, le principe de la Convention européenne qui dit qu'on doit toujours prendre une décision qui prenne en compte l'intérêt supérieur de l'enfant n'est jamais respecté, puisqu'on prend la plupart du temps la fourchette la plus défavorable, c'est-à-dire la majorité. Puisque avec 18 mois d'incertitude sur un créneau d'âge de 16-18 ans, on voit bien que ça permet de mettre hors du service de la protection un certain nombre de jeunes.
On est toujours avec Annie Richard et Christine Bernazo qui s'exprimaient à l'instant. C'est la chronique mensuelle de la Ligue des droits de l'homme, de la section de Nantes et du pays nantais, de la LDH plus précisément. Et le menu de cette chronique a trait aux jeunes mineurs isolés étrangers, mineurs non accompagnés, cette appellation plutôt nouvelle. Alors, on parlait de cette évaluation. La situation au niveau départemental ou local, là, dans l'agglomération nantaise, concernant ces mineurs non accompagnés, combien sont à la rue, pas pris en charge? Et puis, que fait, par exemple, le conseil départemental? Que ne fait-il pas? Est-ce qu'on peut brosser, justement, la situation de ce point de vue-là, Annie Richard?
Oui, tout à fait. Donc, le conseil départemental déclare prendre en charge aujourd'hui 500 mineurs. Donc on pense qu'ils sont effectivement accompagnés d'une manière... on aura des choses à redire sur l'accompagnement. Mais il y a aussi tous les jeunes qui ne sont pas pris en charge, c'est-à-dire tous les jeunes pour lesquels la minorité n'est pas reconnue, qui du coup viennent dans les associations. Ce sont ces jeunes-là. Nous, quand on s'énerve un peu, c'est autour de ces jeunes-là, qui sont en fait des jeunes qui ont donc eu cette évaluation qui a déclaré qu'ils n'étaient pas mineurs, et donc qui se retrouvent avec sur eux des
papiers...
Qu'ils n'étaient pas mineurs.
Oui.
Non, on parle
donc
de ceux
ils sont, voilà, ils ont,
on
donc
parle
ils sont
de
hors
ceux
du
qui
cadre.
N'ont pas été reconnus mineurs.
Autant pour
et
moi.
Donc ces jeunes-là sont dehors avec des papiers de mineurs, donc ne peuvent pas agir comme des majeurs. Mais en même temps, on leur dit, vous n'êtes pas mineur. Donc du coup, ce sont des jeunes qui sont dans un déni de droit. Et c'est pour ces jeunes-là aussi que nous, on agit.
On sait combien il y en a de jeunes dans cette situation-là?
Alors nous, on en connaît environ 250, mais il y en a peut-être plus.
Sur l'agglomération?
Oui.
Nantes?
Oui, mais on ne les connaît pas tous. Ils ne viennent pas tous obligatoirement dans les associations.
Donc ça veut dire que ça peut être plus, vraisemblablement
plus. Ça peut être plus. Et on ne les connaît pas tous. Et donc, quand ces jeunes-là sont déboutés donc, de la minorité, et on aura des choses à dire sur l'évaluation.
L'évaluation que nous décrivait Christine
dans le cadre de la loi. Donc, une évaluation qui, rappelons-le, donc, doit s'opérer le jeune mis à l'abri pendant 5 jours. Donc, ça veut dire quand même prendre du temps. Or, un certain nombre d'évaluations sont effectuées, le jeune non mis à l'abri, sont effectuées en quelques heures, quelquefois. Le jeune n'a pas toujours compris, il n'y a pas d'interprétariat, enfin bon. Donc, du coup, effectivement, un certain nombre de jeunes sont rejetés et c'est donc de cela dont on parle. Et ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on fait avec eux? C'est-à-dire que d'une part, quand ils arrivent dans les associations où ils disent « voilà, ma minorité n'a pas été reconnue », du coup, on les adresse à des avocats. Donc, il y a un certain nombre d'avocats sur Nantes qui se sont un peu spécialisés sur cette cause-là. Et un recours est formulé auprès du juge des enfants. Le recours prend en général entre 6 et 9 mois. Ça veut dire que pendant cette période, les jeunes sont sans droit. Et c'est ça qui nous fait...
Sans droit et sans rien, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent donc à la rue.
Voilà, donc on organise pour eux l'aspect juridique, l'aspect formation, scolarisation quand on peut, et l'aspect survie. Survie, c'est-à-dire hébergement, alimentation, voilà. Alors il y a aussi la prise en charge médicale par des associations comme Médecins du Monde. Donc voilà, on assure en fait pour ces jeunes-là qui sont sans droit un certain nombre de choses et c'est ça qui nous fait aussi réagir.
Ceux que vous arrivez à contacter, parce que ce que tu disais, Annie, il y en a sans doute qui sont dans la nature, c'est entre guillemets, bien sûr. Le conseil départemental, j'y reviens un peu, alors, qui a consacré d'ailleurs son magazine d'octobre-novembre de cette année à Jeunes Migrants, la réalité. En face, alors peut-être une formule à l'attention des associations qui critiquent parfois ce que ne fait pas le conseil départemental. Alors on a l'impression que la collectivité territoriale, le conseil départemental est complètement dépassé. Alors de l'aveu même du président Philippe Grosvalet, puisqu'il dit qu'en 5 ans, le nombre de mineurs isolés étrangers pris en charge par le département de Loire-Atlantique a été multiplié par 12. Passant de 40 en 2012 à près de 500 en 2016, est-ce que ce n'est pas là une sorte d'aveu d'impuissance? Et puis, Philippe Grosvalet dit clairement que l'État n'assume absolument pas son rôle. Une réaction par rapport à aux propos de Philippe Grosvalet, Annie et Christine?
Sur l'augmentation du nombre de jeunes présents, c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Nous aussi, on assiste au même phénomène. Bon, ce qu'on peut effectivement regretter, c'est qu'il n'y ait pas plus de travail commun entre l'État et les conseils départementaux, que tous les conseils départementaux ne sont pas logés à la même enseigne. Bon, ça, tout le monde le sait. Voilà, donc oui.
Il y a un travail entre la LDH et le conseil départemental, et les associations, je pense à la CIMAT, je pense à vous,
On a plusieurs fois interpellé les élus départementaux. On a en particulier rencontré Madame Padovani. Mais... quand on travaille avec eux, ils sont quand même beaucoup dans la négation de ce que nous on dit. C'est-à-dire que récemment, dans les journaux, M. Grosvalet a déclaré « Les associations disent qu'il y a des mineurs à la rue en Loire-Atlantique, ça n'est pas vrai. Mmh. » Ben si, c'est vrai.
Et vous le constatez dans votre action quotidienne?
Oui, puisqu'on a ces jeunes qui sont en recours. Mmh. Et que 35% aujourd'hui de ces jeunes-là sont effectivement repris en charge parce que le juge des enfants dit « Si, si, ils sont mineurs ». Et d'ailleurs, le conseil départemental, souvent, fait appel de cette décision. Donc oui, il y a des mineurs à la rue.
Christine ?
La problématique, je pense, qui est posée par ces chiffres-là, c'est surtout une problématique de gestion. C'est-à-dire les départements, comme ils l'ont fait à leur Assemblée générale en octobre, dénoncent le fait que l'État ne les indemnise pas suffisamment, alors que c'est prévu par la loi.
Et ça, on peut l'entendre ?
Ça peut être entendu, qu'il n'y ait pas suffisamment de financement. Et le problème qui nous inquiète par rapport à la réforme qui est envisagée par le gouvernement telle qu'il a été annoncée donc à l'Assemblée générale des conseils départementaux au mois d'octobre, c'est que l'État va reprendre en charge le principe de l'évaluation et de l'hébergement d'urgence de ces jeunes. Donc si l'État a les moyens de financer lui-même l'évaluation, pourquoi ne reverse-t-il pas le financement au département pour faire le travail qui est leur compétence? Parce que la protection de l'enfance, c'est bien de la compétence des conseils départementaux. Et l'autre sujet d'inquiétude par rapport à ce projet du gouvernement, c'est de faire glisser, de sortir ces jeunes migrants du système de protection de l'enfance pour les faire glisser vers un statut de migrant. C'est-à-dire, on fait passer la politique migratoire avant la protection de l'enfance. Or, la France est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Et tout ça, évidemment, au détriment des mineurs.
Au détriment des mineurs, au détriment de l'intérêt supérieur de l'enfant, dans lequel la Convention rappelle que la présomption de minorité est un droit, que toute décision concernant un jeune doit prendre en compte d'abord l'intérêt de l'enfant.
Donc ce glissement montre que cet intérêt, il est peu pris en compte par l'État.
C'est un grave glissement de la situation en France, oui.
Où est-ce qu'on peut intercéder pour faire changer la situation? Est-ce qu'au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a des choses? Est-ce qu'il y a des actions menées par la LDH? C'est une question très large. Et peut-être que la présidente d'honneur qui sera présente le 23 novembre, qu'elle pourra répondre, peut-être, Françoise Dumont. Voilà, on lui posera peut-être la question si on peut la croiser.
Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui d'action auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ce qui est sûr, c'est que la LDH et d'autres associations comme la CIMAD, la FASTI, le MRAP, entre autres, ont lancé une campagne en septembre pour justement dénoncer toute cette illégalité d'une part et tout ce rejet d'une certaine manière de tous ces mineurs.
Le scandale, c'est le tri qu'on fait de ces mineurs qui devraient être protégés, qu'ils ne sont pas. C'est ça le fond du problème finalement.
Oui. Il y a une même dans la loi de 2016 qui organisait donc la protection de ces jeunes dans le cadre de la protection de l'enfance. Il y avait déjà une spécificité de fait, puisque avant de pouvoir en bénéficier, on examine la validité de leur minorité. Or, tout enfant autre sur le territoire français, quand il s'agit d'être protégé, qu'est-ce qu'on évalue? Est-ce qu'il est en danger par rapport à sa santé, par rapport à sa sécurité, par rapport à ses besoins vitaux, par rapport à ses droits? Donc on voit bien qu'il y a deux types d'évaluation. Il y a déjà, dans le système actuel, une spécificité réservée aux jeunes migrants.
Donc il y a une discrimination de fait et puis des drames humains, parce que être à la rue quand on est mineur, on imagine que, évidemment, ce ne sont pas des conditions décentes pour tout être humain, tout simplement.
Mais oui. Ouais, c'est, mais oui.
Donc, situation préoccupante, alarmante, parce que des dizaines de jeunes passent à travers les mailles même de vos filets bienveillants, la LDH et des autres associations, et puis que, voilà, ils n'existent pas finalement.
Mais non. Mm-hmm. Ils n'existent pas, sauf pour se faire arrêter place du commerce ou pour se faire critiquer comme délinquants et compagnie. Quoi. Là, ils existent.
Donc c'est cette évaluation qu'il faut revoir. Ce serait ça une des premières clés de la résolution de ce problème douloureux pour ces personnes qui errent là, dans la nature,
Alors c'est ça qu'il faudrait revoir. Et puis surtout que le doute, entre guillemets, bénéficie aux jeunes. Je crois que ça, c'est vraiment le... C'est vraiment aussi la clé. Et puis, les questions d'évaluation, ce qu'on peut quand même dire, c'est que les acteurs éducatifs des services de protection de l'enfance n'ont pas quand même, en l'état, là, de leur savoir et de leurs compétences, les outils adaptés à ce public-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une méconnaissance des besoins spécifiques, interculturalité, interprétariat, vulnérabilité due aussi au parcours migratoire. Donc là, on a quand même affaire à des personnes qui font des évaluations sans... Alors peut-être que depuis, ils ont appris en marchant, mais quand même. On peut aussi dénoncer ça, d'autant que le conseil départemental délègue à une association ce travail-là. Et cette association, elle ne recrute pas obligatoirement des gens ultra compétents. Ça serait intéressant à voir de plus près. Et donc, il ne s'agit pas de critiquer les professionnels qui font le travail, mais il s'agit de dire qu'ils n'ont pas obligatoirement les outils nécessaires pour faire ce travail-là.
Donc le bon sens premier serait d'ajuster les outils pour le travail qui reste à faire et pour le sort de ces personnes-là.
Et de sortir de l'idée en priorité que ces jeunes sont des fraudeurs. Il faut vraiment sortir de ça aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on dénonce.
On retrouve évidemment des choses sur le site de la section de Nantes et du Pays Nantais concernant cette question des mineurs non accompagnés. Sur l'état d'urgence également, c'est une préoccupation de la LDH.
Tout à fait.
Vous voyez un peu les prolongations qu'a cet état d'urgence qui est devenu permanent d'ailleurs, ce qui n'est pas sans inquiéter forcément. Et la LDH et toutes celles et ceux qui sont attachés aux libertés fondamentales.
Et sur la politique migratoire aussi, parce que quand même, on entre dans une période de dissuasion migratoire. C'est une nouvelle invention. Et quand on voit que tout ce qu'on peut lire aujourd'hui sur le nombre de migrants qui arrivent en Europe, il y a une forte diminution. Beaucoup sont retenus en Libye, entre autres, qui, tout le monde le sait, est un pays démocratique et sûr. Donc effectivement, on a vraiment matière à s'inquiéter.
Et puis on s'inquiète qu'une chose n'a pas été comprise, c'est que Quelle que soit la hauteur des murs, ils seront toujours franchis ou contournés.
Tout à fait.
Au prix de drames humains, là aussi.
D'ailleurs, les migrants empruntent de nouvelles routes. Hein,
bien sûr.
Ils évitent la Libye maintenant, ils passent par ailleurs.
La Libye, on a mis un beau bazar, hein, bien sûr. Merci Christine Bernazzo et Annie Richard de la Ligue des droits de l'homme pour cette chronique. On renvoie donc au jeudi 23 novembre, on renvoie à cette chronique qui sera comme les autres disponibles en podcast et que vous pourrez diffuser à l'envi, c'est fait pour ça. Et puis le jeudi 23 novembre à 20h dans le cadre de ce grand événement qui se déroule à partir du 3 novembre, c'est-à-dire ce festival des solidarités, eh bien, on aura le plaisir hein, d'entendre Françoise Dumont, présidente d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, pour une rencontre publique au Théâtre Bretagne, rue Villebois-Mareuil à Nantes, et pas à un autre endroit comme par erreur ça a été indiqué dans le programme, sur la question « jeunes mineurs isolés étrangers ». Deux petits points. Quelle solidarité au pluriel ? Eh bien, une question qui reste en suspens et que cette soirée permettra peut-être d'avoir quelques éléments de réponse.
Considérant que l'ignorance, l'oubli,
tous les hommes sont des égaux.
Ou le mépris des droits de l'homme.
De la nouvelle déclaration universelle des droits de l'homme. Dont la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, de la justice et de la paix dans le monde,
ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits.
Les émeutes ont éclaté suite au
récit
bien connu des services de police.
C'est quand même curieux, c'est un texte qui a plus de 200 ans. Il n'y a pas grand-chose à y changer.
Chronique mensuelle de la section nantaise de la Ligue des droits de l'homme.